Chapitre 7. L'intérêt que Clémence a témoigné à Paul, la chaleur avec laquelle elle exaltait sa conduite, inspirèrent à Don Martin une pensée qu'il s'étonna de n'avoir pas eue plus tôt, c'était d'unir sa belle-fille à son neveu. M. de Guevard aimait et estimait au fond Paul. Guevard a comme lui, excellent agriculteur, doué d'un bon caractère, de mœurs irréprochables et appelé à devenir son héritier, il lui paraissait réunir les meilleures conditions pour faire le bonheur de sa fille. Mais il songea aussi qu'il n'avait pas de temps à perdre pour mettre ce projet à exécution, car lui, Don Martin ou l'abbé, venant à mourir, Clémencia, à la fleur de son âge, resterait seule dans le monde. Ce qui, dans ce plan, souriait du reste le plus à Don Martin, c'était de penser que par cette union, sa belle-fille ne le quitterait plus. Cette considération, où il entrait une bonne dose d'égoïsme, faisait surtout pencher la balance. Don Martin était prompt à prendre une résolution, plus prompt encore à l'exécuter. Aussi, deux jours après, sa femme étant allée rendre visite à une religieuse, sa cousine, Don Martin dit à Clémencia « Viens ici, ma fille, j'ai quelque chose à te dire. Il y a plus de 6 ans que ton mari est mort, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur, » répondit Clémencia, tristement impressionnée par ce souvenir.
« Tu viens d'atteindre ta 22e année. Ne faudrait-il pas songer à quelque nouvel établissement, car enfin, tu n'as pas le projet, je suppose, de rester veuve toute ta vie ?»«
Mon père, » répondit Clémencia attristée, « ne parlons pas de cela, je vous prie. Où pourrais-je être plus heureuse qu'auprès de vous et de mon oncle ?»«
Fameuse patraque tous les deux, et au moment, l'un et l'autre, de prendre la poste pour l'autre monde et te laisser un beau matin seule sur la terre. »
« Ne m'avez-vous pas dit bien souvent qu'une âme isolée ne peut ni chanter ni pleurer ?»«
Oui, mais il est temps qu'elle chante, cette âme, ma fille. »
Clémencia demeura rêveuse, effrayée. Elle n'avait jamais pensé à la mort de son beau-père et de sa belle-mère, ni à celle de son oncle. Dans la jeunesse, on ne s'arrête jamais à la pensée de voir mourir les vieillards que l'on aime. Aussi Clémencia resta sans parole. Don Martin poursuivit.
« Je veux en mourant avoir la consolation de confier ton bonheur à un homme de mon choix et je n'en trouve pas de plus digne que Paul. Aux garanties que donnent ses qualités solides, son caractère sûr, se joint un avantage inappréciable pour moi, celui de ne jamais nous séparer. Qu'en dis-tu, ma petite perle ?»
Clémence a été consternée et gardait le silence. Don Martin ne comprenait pas que si ses continuelles railleries sur Paul ne pouvaient impressionner un esprit supérieur comme celui de l'abbé, elles devaient néanmoins exercer une influence fâcheuse sur un esprit aussi jeune, aussi facile que l'était celui de Clémencia.
« Tu ne trouves donc pas mon neveu à ton goût ?» demanda Don Martin en souriant. « Je le comprends. Mon fils était plus beau garçon, mais mon neveu est plus capable de te rendre heureuse. Crois-moi, Paul est un honnête homme, et qui dit honnête homme, dit gentilhomme. L'abbé, qui pour toi est un oracle, affirme que Paul est un trésor. Mon pauvre neveu n'a pas, il est vrai, l'art de bien arranger sa cravate. Il ne pommade point ses cheveux, il ne parfume pas ses mouchoirs, il ne singe pas les modes et les manières françaises, il ne passe pas sa matinée à se mirer devant une glace, comme nos freluquets des villes, qui, n'y voyant pas plus loin que leur nez, n'ayant pas un pouce de terre à eux, n'embrigue pas moins l'honneur de représenter la nation dans les Cortès. Penses-tu, ma fille, que de pareils avortons puissent être d'aussi bons maris que le serait Paul ?»«
Non, mon père, répondit Clémencia, je ne l'ai jamais cru parce que jamais je n'ai rêvé ni novio ni mariage. »
Cela n'est pas raisonnable, mon enfant. La femme a besoin d'appui et quand le mien te manquera, je veux t'en assurer un aussi bon. La femme seule est comme la feuille sans tronc, de même que l'homme seul est comme l'arbre sans feuilles. Après tout, si Paul n'est pas beau, eh bien, nous ferons la noce à la brune. La nuit, tous les chats sont gris.
Clémencia, prévoyant que son beau-père allait continuer sur le même ton, avec la grosse franchise qui lui était habituelle, s'empressa de l'interrompre.
« Mon père, lui dit-elle en souriant, les mariages et les trépas sont écrits dans le ciel. Nous avons tout le temps de nous occuper de cette affaire. »«
Tu veux donc, ma fille, qu'il en soit de ton mariage comme celui de quelqu'un qui passa 30 ans à réfléchir avant de se décider et finit par rester garçon ?
Vous m'avez toujours dit, avant de te marier, regarde-y à deux fois. Pourquoi donc êtes-vous si pressé maintenant ?
Pourquoi ? S'écria donc Martine. Belle question. Parce que je te tiens lieu de père et que je suis l'oncle de Paul. Parce qu'étant le maître de ma fortune, je veux la laisser entre vos mains et surtout parce que dans cette union, je vois votre bonheur à tous deux assuré.
La pauvre Clémentia était fort embarrassée. Elle éprouvait une grande répugnance à contracter l'alliance que son beau-père lui proposait. Mais se reprochant ce sentiment de répulsion comme un caprice, comme une résolution peu raisonnable, elle répondit avec douceur
« Je ferai tout ce que vous me demanderez, mon père, les yeux fermés. »«
Non pas fermés, ma fille, mais grands ouverts, car je veux te faire voir clairement tous les avantages de ce mariage et te convaincre qu'on ne trouve pas tous les jours des maris comme Paul. Le cœur d'un roi, le sang d'un prince, la fortune d'un duc, et de plus, une tête riche de toute l'érudition que lui a transmise mon frère, que veux-tu de plus ?»«
Mon seul désir est de vous contenter en tout, » dit Clémentia.
« Et le mien est de te voir heureuse, mignonne. Par conséquent, vouloir ce que je veux, c'est vouloir ton bonheur. »
Retirée dans son appartement, Clémentia fondit en larmes. Un moment, elle eut la pensée de tout confier à son oncle, mais elle y renonça, convaincue que cet excellent homme voudrait à tout prix empêcher un mariage qui lui répugnait et que cela déplairait profondément à son beau-père.
Don Martin se montra, comme toujours, gai et bavard à table. Clémentia, au contraire, était pâle et abattue. Sur son visage, on aurait pu voir la trace récente de ses larmes. Néanmoins, personne ne s'en aperçut, excepté Paul, qui, vivement préoccupé, se disait
« Elle a pleuré. Hélas, qui donc a pu lui causer de la peine ?»
Il n'osa cependant lui faire aucune question, et Clémentia, absorbée dans ses réflexions, n'ayant pas levé une seule fois les yeux sur lui, ne put s'apercevoir qu'il avait remarqué son changement. Tout cela resta inaperçu pour Don Martin. Les égoïstes sont de mauvais observateurs. Il était de ceux qui veulent à toute force que tout le monde soit de leur avis. Quand il était de mauvaise humeur, ce qui arrivait rarement, car les Espagnols ont cette précieuse qualité qui n'est pas assez appréciée, de cacher toute impression fâcheuse sous une égalité d'humeur qui ne se dément jamais, il grondait à tort et à travers et ne supportait pas que l'on se permît de rire. Mais lorsqu'il était en train, suivant son expression, il fallait que l'on fût gai, envers et contre tous, vint-on de perdre son père la veille.
« Paul, dit-il à son neveu, tu n'as pas d'appétit, mon garçon. »«
Non, monsieur, répondit-il, j'ai déjà mangé un gâteau au moulin. »«
À quel moulin ?»«
Celui où Francisco Pérez est meunier. »«
Je t'avais dit de ne pas prendre cet homme. »
« C'est vrai, mon oncle, mais il y aurait eu de l'injustice à le refuser. »«
Je n'aime pas les leçons, entends-tu ? Je t'avais déjà prévenu que cet homme est peu scrupuleux. » »«
Francisco Pérez est un brave homme. Il rend toujours un compte exact de ses moutures. Je réponds de lui, mon oncle. »«
C'est égal, Paul. Brebis comptées, le loup les mange. D'ailleurs, je ne veux pas les gens de Villamartine. »
Et pourquoi, mon oncle ?
Parce que ce sont des imbéciles.
C'est un préjugé, mon oncle.
Préjugé, tu vas voir.
On préparait un jour à Villamartine une course de taureaux dans le grand genre avec picadores, matadors et banderilleros. Par malheur, on n'avait qu'un cheval, maigre comme une sardine. Tant bien que mal, il servit le premier jour, mais le lendemain, le public se révolta, ne voulant pas que le picador eût pour monture le squelette de la veille. Que fait l'entrepreneur ? Il annonce qu'il fera paraître un cheval gris, superbe. Or, comme le sien était noir, il l'inonda d'eau de chaux qui le rendit blanc, au grand contentement de la foule, et même des maquignons qui affirmèrent que le cheval gris valait 20 doublons de plus que le cheval noir.
Juan, poursuivit Don Martin en s'adressant à la femme de charge. « Dis à la cuisinière que ces lapins montent au nez, ce qui est un assez mauvais chemin pour les faire arriver à la bouche. Je sais qu'elle a un amoureux. Dis-lui qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas sonner les cloches et suivre la procession. Ainsi, elle fera mieux de planter là les amourettes ou de plier bagages. Paul, ajouta-t-il en s'adressant à son neveu, tu ne manges pas. Est-ce que ta blessure te fait souffrir ?
Du tout, mon oncle. Qui pense maintenant à ma blessure ?
Moi, qui ai toujours le regret de te l'avoir faite.
Maudite vieille ! Qui ose m'appeler Don Pedro le Cruel et prétend qu'après l'avoir insultée, j'ai voulu la tuer.
Ce que la langue sème ne se perd jamais, dit Doña Brigitte. Si tu ne t'amusais pas à raisonner avec de pareils gens, tu n'aurais pas à te plaindre de leur insolence.
Me taire ? Non, Seigneur, je dis tout ce que j'ai sur le cœur, il en a toujours été ainsi et il en sera de même jusqu'à l'heure de ma mort. Croiriez-vous que l'autre jour, elle a encore osé venir, escortée de ses deux acolytes, la Machuca et la Carrasca ? Il m'a suffi de la regarder, mais de quels yeux, pour la faire pâlir et décamper au plus vite. Je déteste cordialement ces trois vilaines créatures.
Mon frère, dit l'abbé, Chateaubriand a dit que la haine est encore plus nuisible à ceux qui l'éprouvent qu'à ceux qui l'inspirent.
Je le savais déjà, sans consulter cet étranger. Mais puisque tu pries tous les jours pour l'extirpation des hérésies que tu détestes, laisse-moi prier à mon tour pour l'extermination de toutes les insupportables vieilles que j'abomine.
Acceptez-en votre femme, lui dit tranquillement Doña Brigida.
Seigneur, répondit Don Martin, pour moi, vous êtes toujours jeune, comme au jour de notre mariage.
« Moi, j'aime les vieillards, lui dit sa femme, et je trouve que tu as bien fait de vieillir. »
Tout est donc pour le mieux. Jeune ou vieux, je serai toujours prêt, Seigneur, à vous être agréable en tout, lui dit galamment Don Martin. Puis, s'adressant à Paul, « Je ne te reconnais plus, dit-il. Tu ne mangerais pas aujourd'hui dans une semaine ce que tu mangeais autrefois dans un repas. Autrefois, tu dormais tant et si bien qu'il eût fallu une fanfare de trompette pour te réveiller. » Maintenant, tu passes les nuits sur tes bouquins. Encore, si tu les passais à courtiser une jolie femme, je comprendrais.
Vous croyez donc que la science est nuisible à l'appétit ? Dit Clémentia.
Sans doute, mon petit docteur en jupon, j'ai toujours dit que les livres enlèvent à l'estomac sa chaleur. Voyons, Paul, toi qui uses tes yeux sur de vieux parchemins, sais-tu quelle est la chose plus nécessaire à la terre que la bénédiction d'un évêque ?
Celle de Dieu.
Sans doute, mais ne nous élevons pas si haut.
Alors je n'y suis pas, mon oncle.
Eh bien, que t'a servi d'avaler tant de latin et d'apprendre tant de mots ronflants ?
Ta question, mon frère, dit l'abbé, me rappelle l'histoire d'un conscrit qui, arrivant dans une ville, entra dans la première boutique qui se présenta à sa vue. C'était une pharmacie.
Que vend-on ici ? Demanda-t-il.
« De tout, répondit l'apothicaire.
Eh bien, donnez-moi une paire de souliers. »
« Bravo !» s'écria Don Martin en riant.
« Bravo, monsieur l'abbé, nous savons encore compter l'historiette. Je vois avec plaisir que le sang andalou n'est pas latinisé dans tes veines.
« Loque natus est negar nos potes. J'ai encore au besoin un texte latin dans ma poche. »
L'abbé et Paul se mirent à rire.
Qu'est-ce que c'est ? N'ai-je pas bien parlé ? Je l'ai toujours entendu dire ainsi. On a peut-être perfectionné le latin depuis. Mais crois-moi, mon frère, les souliers du conscrit seraient plus utiles à Paul que les drogues de l'apothicaire. Et sache-le bien, mon neveu, la chose plus utile à la terre que la bénédiction d'un évêque, c'est l'engrais dont on la couvre. C'est une façon de parler. Mais, ajouta-t-il en s'adressant à l'abbé, « ne va pas prendre la chose du mauvais côté et crier au scandale. »«
Je le sais, Martine, lui dit l'abbé, et je ne me scandaliserai point d'une plaisanterie innocente. Ce serait bon pour un pharisien. »